Je vais immédiatement donner la parole, dans un premier temps, à Madame Gabriella Battaglioni-Dragoni, secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe. Ensuite de quoi, la parole sera donnée à Éric Bussière, donc directeur du laboratoire d'excellence EHME, écrire une histoire nouvelle de l'Europe. Puis à Sandra Logier, directrice adjointe sciences humaines et sociales du CNRS. Madame.
Monsieur le professeur Bussière, Madame le professeur Logier, Monsieur le ministre conseiller Bayard de l'ambassade de Belgique, ici à Paris, représentant aujourd'hui la présidence belge de notre comité de ministres au Conseil de l'Europe. Mesdames et messieurs, je vous exprime tout d'abord mes mots de bienvenue et de satisfaction très forte d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir ouvrir ce colloque. Je me permettrai de vous appeler, chers amis, même si on ne se connaît pas, mais on partage nos valeurs. Nous sommes face à un réel problème. À mesure que le temps passe et que le nombre de personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale s'amenuise, comment évoquer les atrocités qui ont été commises? Comment raconter l'histoire de ceux qui les ont subis d'une manière qui soit suffisamment parlante pour éviter que notre sombre passé ne se répète? Se souvenir, ce n'est pas simplement accomplir un acte de respect à l'égard de ceux qui ont souffert. C'est aussi mettre en place l'une de nos plus grandes protections contre la résurgence de la violence engendrée par le préjugé et la haine. Ceci est vrai pour toutes les victimes de l'Holocauste. Le peuple juif, d'abord, et les 6 millions d'individus qui ont été exterminés. C'est également vrai pour les autres groupes persécutés, dont les Roms, les personnes handicapées, les témoins de Jéhovah et les homosexuels. Pour ces groupes, le défi a été d'autant plus difficile à relever. Ils ont dû lutter pour leur droit d'être inscrits dans la mémoire de l'humanité. Le grand public n'a pas encore pris pleinement conscience de ce que fut le sort des Européens homosexuels envoyés dans les camps de concentration nazis. Les survivants, qui en ont parlé, l'ont fait rarement et à intervalles espacés, souvent réduits au silence par la peur ou la honte. Collectivement, on ne s'est guère préoccupé de raconter leur histoire. C'est là que, grâce aux travaux de pionniers, comme ceux d'historiens spécialisés et des militants, que la vérité a été mise à jour, du moins partiellement. Je voudrais, à ce propos, rendre hommage à l'action des universitaires, chercheurs et associations qui ont mené un combat important dans ce domaine. Ce combat continue et donc je sais qu'il faut aussi le continuer. C'est d'ailleurs, permettez-moi une parenthèse, la raison pour laquelle, sachant qu'au CNRS, l'intention est très forte de continuer à soutenir et développer des recherches sur ce thème qui a besoin d'être ultérieurement étudié et présenté au grand public, c'est donc pour cette raison en particulier que je voulais venir vous témoigner notre soutien et notre plus grand intérêt pour que vous continuiez dans cet axe d'action. Mesdames, Messieurs, nous savons à présent que de 1933 à 1945, quelques 100 000 hommes de tous les pays d'Europe, de des pays comme l'Autriche en particulier, la France, les Pays-Bas, la Pologne, et de ceux qui étaient à l'époque la Tchécoslovaquie, ont été arrêtés pour la simple raison qu'ils étaient homosexuels. Nous savons qu'environ 50 000 personnes officiellement définies comme homosexuelles ont été condamnées par les tribunaux. La plupart de ces hommes ont été longtemps enfermés dans des prisons ordinaires. On estime entre 5 000 et 15 000 le nombre de personnes condamnées qui ont été déportées dans des camps de concentration et ont dû porter un uniforme, comme les autres prisonniers, marqué de signes distinctifs. Il s'agissait soit d'un gros point noir et du chiffre 175, le numéro du paragraphe du code pénal allemand interdisant les actes homosexuels, tracé au dos de leur veste, soit plus tard d'un triangle rose. Grâce aux personnes qui ont eu le courage de parler, nous connaissons à présent quelques-unes des tragédies personnelles. Un homme du nom de Pierre Sill, vous avez le livre, le témoignage de ce monsieur sur la table à l'accueil, eh bien, ce monsieur a été déporté dans le camp de Schirmeck, en Alsace, à l'âge de 17 ans. 40 ans après sa déportation, et ce qu'il décrit comme une vie rangée d'hétérosexuel, il a révélé son homosexualité en 1982 et osé faire le récit de ses souffrances. Lors d'une réunion de l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, Pierre a expliqué que les prisonniers homosexuels dans les camps étaient non seulement en but à une extrême brutalité de la part des gardiens, mais aussi qu'ils devaient de surcroît faire face au mépris des autres détenus. Ils étaient en proie à la haine de quelque côté qu'ils se tournent. Ces souffrances doivent être rappelées, et c'est ce que nous faisons dans le cadre de notre programme intitulé Transmission de la mémoire de l'Holocauste et prévention des crimes contre l'humanité. Ceci a été rendu possible grâce à la Convention culturelle européenne, adoptée il y a 60 ans, en décembre 1954, et signée à présent par 50 pays. Convention qui souligne l'importance de l'enseignement de l'histoire, y compris de la commémoration dans tous les États européens. En 2011, ce programme est devenu transversal, intégrant des dimensions comme la culture, le patrimoine, la jeunesse et l'action contre le racisme et l'intolérance. Nous estimons, au Conseil de l'Europe, comme nos États membres par ailleurs, que l'éducation est la clé à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'éducation primaire, secondaire et universitaire. C'est par ce moyen que nous pouvons apprendre à la nouvelle génération à construire des sociétés ouvertes, tolérantes et plurielles, et à les protéger. Le colloque d'aujourd'hui est une émanation de la volonté d'agir du Conseil de l'Europe pour que l'on se souvienne de toutes les victimes de l'Holocauste, en soutenant les efforts des historiens et en sensibilisant davantage l'opinion au sort des groupes particuliers. C'est aussi l'occasion de s'élever contre l'homophobie et la discrimination qui gangrènent notre continent et notre monde. L'occasion de renouveler notre engagement à aller de l'avant en s'appuyant sur les progrès déjà accomplis. Soulignons en effet qu'il y a déjà eu des avancées considérables dans ce domaine, notamment grâce à la dépénalisation des actes homosexuels dans toute l'Europe. Il y a 5 ans, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a fait un pas important en adoptant une recommandation historique visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. En termes de droits de l'homme, c'est le premier instrument, je tiens à le souligner, c'est le premier instrument au monde expressement axé sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. C'est aussi le premier instrument établissant des normes relatives aux droits des personnes transgenres. Le comité de ministres a ainsi donné au Conseil de l'Europe un instrument juridique solide pour combattre la discrimination et renforcer les droits des personnes LGBTI dans ses 47 États membres. L'adoption de cette recommandation a déjà donné lieu à des véritables changements et à des réels progrès. Elle a favorisé la mise en œuvre de réformes juridiques et politiques concrètes au niveau d'une partie en tout cas de nos États membres. Néanmoins, il nous reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir nous enorgueillir de garantir les droits de l'homme. Droits de l'homme universels, donc pour toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Nous avons encore beaucoup à faire avant de pouvoir affirmer qu'elles jouissent d'une dignité et des droits égaux sans aucune discrimination. Je veux simplement que vous sachiez qu'en tant que principale organisation des droits de l'homme en Europe, le Conseil de l'Europe continuera d'aider ses États membres à lutter contre la discrimination et à relever les défis auxquels sont confrontées les personnes LGBT. Nous n'oublierons pas, mesdames et messieurs, les souffrances du passé. Nous nous employerons chaque jour à faire en sorte que ce passé ne se répète jamais. Je vous remercie de votre attention.
Merci bien. Madame la secrétaire générale, je dois avouer que les propos que vous venez de tenir rencontre pleinement la démarche qui est la nôtre dans le cadre du laboratoire d'excellence que j'ai l'honneur de diriger et dont plusieurs représentants sont dans cette salle. Et je dois dire que les réflexions qui ont été les vôtres correspondent d'assez près à celles qui ont été les nôtres lorsque nous avons engagé les travaux, l'organisation d'abord, et les travaux de ce laboratoire. De ce point de vue-là, notre objectif, il est à la fois scientifique, il est d'éclairer tous les publics européens, quels qu'ils soient, j'y reviendrai dans quelques minutes, il est également de proposer un certain nombre de réflexions, un certain nombre de pistes, et également de transmettre un certain nombre d'éléments de la mémoire. Par conséquent, nous nous rencontrons parfaitement. Au fond, notre laboratoire d'excellence, il vise à essayer d'apporter à chacun une compréhension globale de la réalité européenne telle qu'elle est aujourd'hui, en interrogeant le champ historique pour essayer de mieux la comprendre. Et par conséquent, nous intéressons à tout un ensemble de champs. Nous intéressons au champ de l'économie et de la société. Nous intéressons au champ culturel, au champ religieux. Nous intéressons également aux relations de l'Europe avec le reste du monde. Nous intéressons également à différentes formes d'expression dans le domaine artistique, etc. Mais nous intéressons aussi à des champs plus spécifiques et qui, pour chacun d'entre eux, sont à l'intersection de toutes ces préoccupations. Nous avons deux lignes de travail, d'activité, qui concernent l'un, les guerres, la guerre dont vous venez de parler, et le genre. Et c'est aujourd'hui à l'intersection de ces deux axes, principalement, mais pas uniquement, que nous sommes amenés à nous situer. Alors, je veux remercier les partenaires qui nous ont aidés aujourd'hui, qui sont à cette table. D'abord, le Conseil de l'Europe, j'y reviendrai dans deux minutes, parce que nos travaux s'adressent en particulier à des partenaires tels que vous, dans différentes perspectives, et ils sont rendus possibles à travers le partenariat que nous avons avec le CNRS. Nous sommes un ensemble d'unités mixtes de recherche et votre soutien à différents degrés, à différents niveaux, nous est très précieux, voire indispensable. Alors, à qui nous adressons-nous ? Nous avons des travaux qui relèvent un peu de l'expertise, il faut bien le dire, et par conséquent, nos interlocuteurs, ce sont des grandes organisations telles que la vôtre, et nous rejoignons les préoccupations que vous avez bien voulu mentionner. Ce sont les décideurs qui jouent un rôle dans ces grandes organisations, quelle qu'en soit la nature, mais ce sont également, ceux qui transportent, qui portent et qui expliquent le passé, et nous privilégions de ce point de vue-là assez fortement les enseignants de l'enseignement secondaire qui, à travers leur mission, portent les préoccupations que vous avez mentionnées. Et puis, c'est au-delà un public bien plus large, à travers les travaux que nous faisons. Nous souhaitons, notamment à travers la mise en place d'une encyclopédie en ligne accessible à tous, en français et en anglais, nous souhaitons transmettre le résultat de nos travaux et des travaux qui existent déjà, qui sont souvent assez mal connus, il faut bien l'avouer, à un public beaucoup plus large, et au fond, c'est un idéal, mais nous le rencontrons pour partie, je le crois, à tous les citoyens européens. En tout cas, le message leur est adressé. Alors, je crois que de ce point de vue-là, ce que vous venez de nous dire rencontre à plusieurs degrés les intentions, le projet qui est le nôtre. Alors, je voudrais ajouter que un colloque comme celui-ci correspond parfaitement et s'insère dans cette démarche. Il est organisé par deux des axes principaux de notre laboratoire d'excellence, mais comme je l'ai dit, il rencontre à travers tout un ensemble de formes, de mise en œuvre, les préoccupations que vous avez mentionnées. J'ai dit quelques mots de notre encyclopédie qui viendra en ligne dans quelques semaines, et je voulais ajouter que les travaux que nous menons dans un cadre comme celui-ci viennent nourrir la diffusion que nous souhaitons à travers les supports que j'ai mentionnés. Par conséquent, je le répète une dernière fois, la démarche qui est la nôtre, qui est une démarche très globale, elle rejoint la démarche qui est la vôtre, qui est une démarche également globale, même si elle est centrée sur un certain nombre de lignes de force, c'est également notre cas, et la démarche qui est la nôtre n'est possible et véritablement valorisée que si nous pouvons compter fermement sur le soutien de l'organisation que vous présentez, cher madame.
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup, madame la secrétaire générale, pour les mots que vous avez prononcés, qui sont extrêmement importants. Merci donc aux organisateurs, donc à M. Bussière, professeur Bussière, donc pour l'ABEX, et bien sûr à Fabrice Virgili pour l'organisation de ce colloque, à Régis Schalkenhoffen. Je voulais vraiment vous témoigner à tous notre reconnaissance, donc au nom du CNRS, donc président Fuchs et de Patrice Bordelais, le directeur de l'Institut des sciences humaines et sociales, pour organiser cet événement, ce colloque, est pour nous une date extrêmement importante pour le CNRS, pour la recherche en histoire aussi. C'est la première fois que ici même, au siège, nous évoquons officiellement ces questions et que nous donnons toute leur place à la recherche sur les crimes exercés contre les homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour nous quelque chose qui est tout à fait central, d'une part pour les enjeux qui ont été rappelés, là, donc des enjeux mémoriels, la nécessité de rappeler ce qui s'est passé, de bien mettre en évidence aussi ce qui a été dénié et oublié. C'est bien sûr un enjeu aussi pour nous, extrêmement présent, actuel, et c'est ce qu'a rappelé notre collègue, donc, Madame la secrétaire générale. Je crois que c'est vraiment le moment où il nous faut aussi insister sur la nécessité de ces rappels. Et je crois qu'il s'agit à la fois d'enjeux de connaissances historiques, bien entendu, mais cela a été très bien dit par ceux qui viennent de parler. Donc ces enjeux de commémoration, de mémoire, sont bien sûr des enjeux très actuels quant à la reconnaissance des droits des homosexuels en tant que citoyens à plein titre et donc comme méritant la reconnaissance aussi historique de ce qui a été fait à l'encontre de leur communauté. Et donc ce sont des enjeux à la fois historiques et de justice, et c'est pour cela que je suis tout à fait reconnaissante aux organisateurs, et c'est vrai que bon, il y a un moment, Fabrice, Virgilie et moi, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument que ce colloque ait lieu ici, et nous en sommes particulièrement fiers au CNRS donc, de faire ça. C'est vrai que d'une part, le CNRS, depuis un certain nombre d'années, en tout cas depuis 2010 au moins, s'est très, très fortement engagé en faveur de ce qu'on appelle les études genre. Hein. On a affiché cela en priorité à l'Institut des sciences humaines et sociales, et ça n'a pas été du tout une priorité purement verbale, puisque nous avons donc affiché des postes, hein, des postes de chercheurs, donner des moyens, créer un GIS hein, qui s'appelle l'Institut du genre, mais dont le vrai nom est Institut du genre et des sexualités. Je crois que dès le début, dès lors que nous avons pris cette décision, nous avons bien spécifié que les recherches sur le genre intégraient évidemment les recherches sur les femmes, mais donc et inséparablement les recherches donc sur les LGBT et sur l'ensemble donc, des discriminations qui s'opèrent dans l'histoire et aujourd'hui. Je crois que nous avons pas mal avancé dans les recherches sur le genre et le soutien à ces recherches. Le domaine de l'histoire est évidemment celui où, étant donné un certain nombre de membres éminents de notre Institut des sciences humaines et sociales, l'histoire a joué un rôle central hein, dans ce développement du soutien au genre. Ces recherches incluent, bien entendu, même si le genre, jusqu'ici, nous l'avons soutenu sous la forme aussi hein, de l'égalité femmes-hommes. Je crois qu'il est temps maintenant que nous passions aussi, sans du tout oublier cette première phase hein, du soutien au genre en général. Je crois qu'il faut que nous passions très spécifiquement au soutien à ces recherches, dont une journée comme celle d'aujourd'hui montre à quel point elles ont été peut-être sous-évaluées hein, pendant de grandes années. de longues années, et certainement pour des raisons aussi que vous décrivez, qui sont l'absence de reconnaissance donc des droits de la citoyenneté des personnes concernées. Alors je crois que là on est à un moment, il me semble, hein, c'est pas du tout un hasard hein, que ce colloque puisse avoir lieu maintenant, et il est d'une part donc à un moment où on a suffisamment avancé au CNRS, donc maintenant depuis 5 ans, dans la reconnaissance du genre comme objet scientifique légitime, hein, parce que le genre, bon, tout le monde en parlait, mais ça a toujours été un objet, mais il a fallu construire ça comme objet légitime. On l'a construit comme objet légitime pour l'égalité homme-femme, il nous reste maintenant à le construire comme objet scientifique légitime pour ce domaine des sexualités. Et là, il y a une étape supplémentaire, à mon avis, à franchir, et c'est notre, voilà, ça fait partie de nos objectifs, et en général, on essaye de les remplir. Ensuite, du côté de l'histoire, c'est vrai qu'on est à vraiment un moment très important où cette expertise ancienne, hein, très, très reconnue des historiens sur français, donc sur la période nazie et la Seconde Guerre mondiale, s'est transmise en fait à une nouvelle génération de chercheurs. Donc, on a les grandes figures de cette discipline comme Annette Viviorca, et dans cet héritage, on a une nouvelle génération de chercheurs. Je parlais bien sûr de Fabrice Virgili, hein, qui porte toutes ces thématiques, hein, et vraiment qui nous sommes extrêmement reconnaissants, parce que c'est beaucoup de travail, mais il y a aussi toute une génération nouvelle de chercheurs et de chercheuses, hein, et notamment au CNRS, je vais pas citer tous les noms, mais qui vraiment ont fait avancer la connaissance de la Seconde Guerre mondiale, en tant aussi en tant que leur devoir de faire connaître ce qui avait été oublié, hein, dans tout ce qui a été nié et oublié dans cette guerre. Alors, il y a eu évidemment, on va rappeler, persécution à l'égard des Juifs. Il y a évidemment l'oubli, tous les travaux sur l'oubli des femmes dans l'historiographie de la résistance. Je crois que là, plusieurs des chercheuses extrêmement actives dans l'Institut du genre, hein, dans le GIS, sont vraiment à l'origine, hein, de ce travail contre l'oubli. Il y a évidemment la revue Clio aussi, en 95, je crois que le premier numéro était consacré justement aux résistances et libérations en France, hein, avec un premier article de Rita Thalmann sur l'oubli des femmes, et tout un ensemble donc de recherches dans ce domaine. Il y a évidemment aussi, cela a été rappelé, l'articulation entre les thématiques donc genre, sexualité, et celle de la guerre, qui est évidemment quelque chose qui est très, très spécifique à tout cet ensemble de recherches extrêmement, extrêmement riche. Je pense aux travaux de Raphaël Branche, hein, par exemple. Tout cet ensemble de recherches liées aux relations entre genre et violences de guerre, qui sont à la fois en France et au niveau international quelque chose d'extrêmement vivant, et qui, bien sûr, consacre vraiment beaucoup de travaux aux femmes, mais aussi, et c'est cela le thème de la journée d'aujourd'hui, vraiment cette question de l'histoire de l'homosexualité, qui, je dois le dire, et bon, c'est un problème qu'on a aussi avec le genre en général, qui vraiment est un domaine qui a été quand même insuffisamment développé pendant longtemps. C'est peut-être qu'à partir des années 2000, et aussi à partir bien sûr de d'événements et de décisions de reconnaissance officielles, donc des persécutions à l'égard des homosexuels, c'est à partir de cette date que l'on a eu tout un ensemble de travaux extrêmement importants, donc Florence Tamin notamment, mais il y a tous les noms que vous avez dans le programme d'aujourd'hui, donc qui comblent le retard, donc l'ensemble de ces travaux comble un retard, je crois qu'on peut le dire, et justement il est comblé grâce à tous ceux qui sont ici, un retard dans les études et recherches gays et lesbiennes en général, et sur cette question-là en particulier. Et donc je crois que là, on voit à quel point la question des enjeux mémoriels, hein, des enjeux de commémoration et de légitimité, de commémorer tel ou tel groupe, est vraiment quelque chose de central. Je crois que c'est un croisement vraiment entre la recherche et l'étude des mécanismes mémoriels d'une part, la recherche et les revendications aussi des droits d'autre part. On sait à quel point en France et ailleurs, hein, et donc Madame la Secrétaire Générale l'a rappelé, à quel point là les travaux des chercheurs, mais aussi les actions des associations, des militants, ont joué un rôle dans ce type de reconnaissance, ce qui fait que depuis le début des années 2000, on est dans une phase où, de fait, les historiens sortent d'une forme de déni et de négligence par rapport à ce sujet. Il est évidemment tout à fait important que les associations et les luttes plus généralement pour les droits des homosexuels aient joué un rôle en fait aussi pour l'avancée de la science des connaissances dans ce domaine-là. Je crois que c'est quelque chose donc qui résume hein, ce genre de journée et ce à quoi on est arrivé ici depuis 2010 et ce à quoi on arrive dans le domaine de l'histoire donc depuis les années 2000. Je crois que c'est vraiment un événement marquant, donc je le disais en commençant, dans la mesure où l'on voit à quel point les avancées de la recherche, de la connaissance, ne sont pas forcément à séparer de l'engagement, de la mobilisation, le développement des sciences est à la fois inséparable de certaines stratégies justement de déni et d'ignorance, mais du coup inséparable aussi des luttes pour faire disparaître ce déni, cette ignorance. De ce point de vue-là, les recherches sur le genre, les femmes en général, et les recherches sur les sexualités, l'homosexualité, sont sur le même plan épistémologique, puisqu'il s'agit pour nous, tout simplement, d'utiliser aussi des mobilisations et des actions pour légitimer aussi des objets de recherche et, comme le montrent d'ailleurs les travaux hein, de Régis Schagenhofen, c'est vrai qu'il s'agit à la fois d'enjeux de connaissance et de reconnaissance, hein, et les deux sont tout à fait sont tout à fait inséparables. Et pour nous, il est extrêmement important d'avancer dans la connaissance, les recherches telles que celles qu'apportent les recherches qui vont être présentées aujourd'hui hein, et qui concernent tous les pays d'Europe, tout aussi important donc d'avancer dans cette connaissance que d'avancer donc dans la reconnaissance et dans les droits hein, de la pleine citoyenneté hein, des homosexuels, dans leur droit à faire connaître leur histoire dans une période où cela a été rappelé, mais je crois que je peux insister sur le fait qu'en France, la situation est particulièrement inquiétante à ce propos, hein, avec le développement de l'homophobie tel qu'on l'a vu ces dernières années, et peut-être tel qu'il est appelé à croître dans les prochaines années. Je crois qu'il est particulièrement important pour nous donc de marquer l'importance de ce sujet pour le CNRS. Merci.
Transition, je vais donner la parole à Carole Reich et Eleni Tsetsekou du Conseil de l'Europe.
Ok. Je vais reprendre les remarques préliminaires qui ont été faites par la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, Madame Bataini Dragoni. Et c'est pour moi l'occasion, devant vous tous, de la remercier pour le soutien indéfectible qu'elle a toujours accordé au programme qui est intitulé « Transmission de la mémoire de l'Holocauste et prévention des crimes contre l'humanité ». En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, affligée de destruction et de souffrances sans précédent, doit faire face à de nouveaux défis politiques, la réconciliation des peuples d'Europe en particulier. Cette situation est propice à la réalisation d'une idée ancienne, la construction européenne, par la création d'institutions communes. C'est Strasbourg, en France, ville emblématique par excellence, située à la frontière avec l'Allemagne, que seul un pont séparait et désormais relie, Strasbourg que les pères fondateurs de l'Europe ont choisi pour créer en 1949 le Conseil de l'Europe, siège unique de la première organisation internationale créée après la guerre. Strasbourg, cette ville qui fut tour à tour française puis allemande et à nouveau française entre les deux guerres mondiales, sous administration nazie pendant la guerre de 39-45, est désormais à nouveau française à part entière. On a coutume de dire que le Conseil de l'Europe fut fondé sur les cendres du deuxième conflit mondial. Les valeurs défendues par le Conseil de l'Europe, démocratie, respect des droits de l'homme, primauté du droit, sont informées par une perspective préventive, post-Holocauste, qui garantit la construction d'une société européenne, s'efforçant d'apprendre à vivre d'une manière compatible avec le respect de la dignité égale de tous, y compris sur la base du dialogue interculturel. L'Holocauste est un patrimoine européen avec des racines partagées par les différentes nations européennes. Et l'Europe a une grande responsabilité à cet égard qu'elle doit assumer. Tous les lieux authentiques d'extermination et de concentration du plan des nazis ne sont-ils pas situés en Europe ? La Convention culturelle européenne du Conseil de l'Europe de 1954, qui regroupe à nos jours les 47 États membres à part entière de l'organisation, dont font d'ailleurs partie les 28 États de l'Union européenne, ainsi que trois États qui ont signé le document, à savoir le Saint-Siège, le Bélarus et le Kazakhstan, sont le cadre géographique dans lequel nous menons le programme de transmission de la mémoire de l'Holocauste et de prévention des crimes contre l'humanité. Ce programme, effectivement, a été initié en l'an 2000, date clé, à la suite de la déclaration du Forum international de Stockholm sur l'Holocauste, qui reconnaissait le caractère unique de l'Holocauste et les souffrances terribles endurées par les millions d'autres victimes du régime nazi. Les ministres de l'Éducation des États membres, réunis en 2000 à Cracovie, ont convenu de consacrer dans les établissements scolaires une journée de la mémoire de l'Holocauste et de prévention des crimes contre l'humanité. Une telle journée n'a pas pour but de perpétuer la mémoire de l'horreur, mais d'apprendre aux élèves à être vigilants, à défendre les valeurs démocratiques et à combattre l'intolérance. Le Comité des ministres, instance de décision du Conseil de l'Europe, a adopté la dite recommandation 2001-15 relative à l'enseignement de l'histoire en Europe au XXIe siècle. Et dans son paragraphe 6, intitulé « Enseignement et mémoire », demande de prendre toutes les mesures éducatives permettant de prévenir la répétition ou la négation des événements dévastateurs ayant marqué ce siècle, à savoir l'Holocauste, les génocides et autres crimes contre l'humanité, les épurations ethniques, les violations massives des droits de l'homme et des valeurs fondamentales auxquelles le Conseil de l'Europe est particulièrement attaché. L'Holocauste est un événement sans précédent. L'enseigner permet de traiter de toutes les violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité qui l'ont suivi. La caractéristique clé du programme, c'est qu'il est à la fois commémoratif et éducatif. En adoptant une approche interdisciplinaire et en faisant le lien avec l'histoire nationale et régionale des États membres. Depuis le début du programme, toutes les catégories de victimes sont prises en compte. Juifs, Roms, personnes handicapées physiques ou mentales, homosexuels, témoins de Jéhovah, prisonniers polonais, résistants. C'est notre devoir et notre responsabilité, ainsi que notre honneur, de les rappeler toutes. Au Conseil de l'Europe, les victimes homosexuelles ne furent jamais des oubliées de la mémoire. Projet pédagogique par excellence, nous nous employons à former en particulier les enseignants afin qu'ils disposent des connaissances indispensables pour ce travail de mémoire. Les formations sont européennes, c'est-à-dire que les enseignants ou formateurs ou autres groupes cibles venant de différents États membres se retrouvent dans des lieux de mémoire authentiques pour apprendre et échanger et partager. Ces formations se font en étroite coopération avec différents partenaires. Je citerai le Mémorial de la Shoah à Paris, le musée du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, le centre européen du déporté résistant du Struthof-Natzweiler, mais également des partenaires tels Yad Vashem ou l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Du matériel pédagogique est produit par le Conseil de l'Europe pour aider les enseignants à préparer leurs cours. Citons par exemple l'ouvrage de référence, celui de Jean-Michel Lecomte, enseigné l'Holocauste au XXIe siècle, mais également la Shoah à l'écran, Crimes contre l'humanité et représentation, d'Anne-Marie Baron, le témoignage du survivant en classe, de Fabienne Regard, puis le PAC européen pour préparer la visite du mémorial et du musée d'Auschwitz-Birkenau, qui contient de nombreuses pistes pédagogiques pour enseignants et éducateurs. Je citerai encore les fiches d'information sur l'histoire des Roms, les fiches sport et nazisme, ou encore le document musique et camps de concentration fait avec l'organisation des Voix étouffées. Enfin, le remarquable travail de mémoire de la psychiatre et peintre Francine Mérand, qui témoigne à travers ses peintures afin que l'art, et non plus uniquement l'histoire, interpelle les jeunes quant à la capacité de barbarie de l'homme civilisé, au danger de la négation de l'homme, et rappelle la dimension humaine de l'Holocauste pour qu'ils perpétuent à leur tour la transmission. Toutes ces publications montrent le caractère transversal du programme. Toute matière, toute discipline permet aux enseignants de parler de cette période. Le Conseil de l'Europe accorde aussi une grande valeur à ceux qui sauvèrent l'honneur de l'humanité. Nous avons, au Conseil de l'Europe, volontairement décidé d'élargir la notion de juste parmi les nations et d'accorder cette reconnaissance à des personnes qui n'ont pas obtenu le diplôme, mais qui ont fait acte de citoyenneté et de résistance. Bien entendu, valeur unique et inestimable, le témoignage des survivants, même si ceux-ci deviennent de plus en plus rares. Chaque fois que nous le pouvons, nous les écoutons et c'est pour nous une vraie bénédiction, celle pour la jeune génération de reprendre ainsi le flambeau et, comme le disait Elie Wiesel, de devenir témoin à son tour. En conclusion, mesdames et messieurs, la dimension préventive, humaniste et démocratique de la mémoire de l'Holocauste la place fermement dans le domaine du dialogue interculturel. La devise du Conseil de l'Europe est d'agir, non pas de réagir dans ce domaine. Une approche qui est énoncée dans le livre blanc sur le dialogue interculturel, adopté par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe en mai 2008. Être conscient des mécanismes qui ont abouti au génocide, mais si cela n'est pas suffisant en soi, est essentiel pour empêcher qu'ils ne se reproduisent. Le Conseil de l'Europe est la seule organisation internationale à avoir un monument en mémoire des victimes des camps de la mort, qui a été érigé en 2005 sur le parvis du Conseil de l'Europe. Et chaque visiteur qui gravit les marches pour accéder au palais de l'Europe peut s'y recueillir un instant. Quant à nous, si vous le voulez bien, en cette année du 70e anniversaire de la libération, dédions notre colloque à la mémoire de toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale.
Mesdames et messieurs, je suis responsable d'une unité très petite, mais très importante, qui coordonne aussi les travaux du Conseil de l'Europe en la matière, c'est-à-dire promouvoir le plein respect des droits de l'homme, notamment l'égalité et la dignité humaine pour les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bisexuel, transgenre. Attention, on ne voit pas de nouveaux droits. Les droits ne sont pas nouveaux, ce sont des droits pour tout le monde. Il y a un petit souci actuellement d'égalité aux droits. Donc, notre petite unité, elle a été créée il y a 4 ans et elle travaille main dans la main avec les gouvernements, les autorités locales et la société civile pour promouvoir des politiques de respect des droits de l'homme et des personnes LGBT. Donc le Conseil de l'Europe, qui a été fondé en 1949 et qui regroupe 47 États membres, a commencé ses travaux sur les questions des droits de l'homme des LGBT il y a longtemps. On a eu à 81 le premier document de l'Assemblée parlementaire, c'était une recommandation, sur la discrimination à la contre des homosexuels. Et depuis, 15 différents recommandations, résolutions, rapports ont été adoptés par l'Assemblée parlementaire, par le Comité des ministres, par le Congrès, et sur la question du droit de l'homme des personnes LGBT. Donc, c'est une organisation qui a été déterminée d'aborder cette question en premier. Ça a été déjà mentionné. La recommandation de 2005, de 2010, il y a 5 ans, le 30 mars, était le premier document qui abordait cette question. Était le premier document qui énonçait des principes, mais pas des différentes mesures. C'était juste des mesures qui devraient les États membres, des mesures qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas recensées dans un document, qui devraient les États membres prendre pour changer leur politique, leur législation, leur pratique en la matière. Elle contient des principes qui s'inspirent des documents internationaux, mais surtout de la Convention européenne des droits de l'homme. Tout le monde connaît cette convention, tous les États membres du Conseil de l'Europe, avant d'adhérer au Conseil de l'Europe, doivent signer, ratifier, accepter la mise en œuvre de la convention dans leur territoire. Donc, c'est ce document, la recommandation, qui nous a donné le mandat de commencer un travail de coopération avec les États membres afin de changer leur politique, leur législation, comme je l'ai mentionné. Dans le cadre d'un projet, il y a depuis 2011, c'était un projet qui a été mis en place dans 6 États membres et qui a continué depuis le deuxième mandat qu'on a eu. Le comité des ministres l'année dernière a examiné la mise en œuvre de la recommandation aux États membres et a donné le mandat au Conseil de l'Europe de continuer son travail sur la mise en œuvre de la recommandation. Mais on n'est pas seul, je dis on n'est pas seul parce que la petite unité fait un travail de coordination avec les autres parties de la maison. Donc, tout d'abord, c'est la Cour européenne des droits de l'homme et sa jurisprudence. On a recensé au moins 30 jugements concernant des affaires LGBT. Il y a 30 accords qui sont pendantes. Et ce sont des jugements qui concernent des différents droits de l'homme, par exemple, différents articles de la Convention, comme par exemple les droits à la vie privée, les droits à l'association, l'expression, les droits à la propriété. La vie privée, c'est très intéressant, les affaires devant la Cour européenne, la vie privée concerne l'adoption, l'autorité parentale, le congé parental, le permis de séjour, la protection sociale, les refus d'inscription, comme parent sur un acte de naissance, révocation de l'armée, droit au bail, union civile, toute une fourchette de droits de l'homme que nous aimerions voir un jour. Que ce soit que les personnes LGBT en profitent comme le reste de la population, bien sûr, le reste des citoyens. La liberté d'expression de la Réunion est très liée, comme vous connaissez, au marche de fierté dans plusieurs États membres où on a des soucis. Le droit au mariage, c'est l'article 12 de la Convention, et le droit de la propriété. La recommandation, ce n'est pas un document juridique contraignant, mais c'est le seul document qui existe actuellement dans le monde avec des mesures concrètes dans son annexe pour des politiques et des pratiques et des législations qui respectent les droits de l'homme des LGBT. Mais en même temps, on a d'autres institutions qui sont contraignantes, j'ai mentionné déjà la Cour, mais on a aussi les organes de suivi, comme c'est écrit, la Commission européenne contre le racisme, comme c'est le comité pour la prévention de la torture. Ce sont des comités qui suivent la mise en œuvre de la recommandation pendant leur visite dans le pays et bien sûr le commissaire des droits de l'homme. Vous connaissez tous, il a déjà publié pas mal de notes, pas mal des opinions sur les questions des enfants LGBT, des personnes transgenres, de la liberté de l'association. Il y a moins de raisons d'être optimiste. Parce que depuis qu'on a adopté la recommandation en 2010, c'est pas très longtemps, depuis 5 ans, comme j'ai dit, il y a quand même des changements dans les États membres. Il y a toujours de la résistance et les changements dépendent toujours de l'acceptation sociale de la question LGBT. Ça, on le connaît bien, il ne faut pas se casser. Mais il y a quand même beaucoup de changements. Et j'aimerais bien mentionner quelques changements. Il y a des États membres qui ont fait des plans d'action pour combattre la discrimination contre les personnes LGBT. Je mentionne l'Italie, je mentionne l'Albanie. On a une demande pour la Grèce, la Pologne aussi. Donc, il y a des États membres qui ont déjà fait des avancées. Il y a des États membres qui ont commencé à changer leurs lois sur le changement du genre pour les personnes transgenres. Vous connaissez peut-être qu'il y a toujours 22 États membres qui prévoient la stérilisation forcée des personnes transgenres, qui demandent le divorce. On travaille donc avec les États pour pouvoir mettre fin à ces procédures qui sont quand même qui ne sont pas acceptées par les transgenres eux-mêmes, mais aussi qui sont été fustigées par la Cour européenne des droits de l'homme. Malte actuellement a peut-être la loi la plus progressiste en la matière. En même temps, on a vu que il y a des États membres où il y a un recul. Il y a les États membres qui durcissent leur politique vis-à-vis des LGBT, de leur droit de manifester. Ils adoptent une législation qui limite leurs droits fondamentaux. En même temps, on voit que dans les écoles, dans nos écoles, sans exception, malheureusement, les enfants LGBT souffrent d'harcèlement. Ils sont brutalisés. En même temps, on sait que les taux de suicide dans les LGBT est quand même beaucoup plus élevé que dans les autres catégories de la société, des personnes. Donc, il y a aussi des politiciens qui utilisent les discours homophobes. Il y a aussi des représentants de l'Église. Donc, le ventre est encore fécond, d'où a surgi les bêtes immondes, comme il disait Brecht. Et je pense que c'est notre devoir, à nous, à vous, universitaires, société civile. Je dois avouer que j'étais tellement, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'étais tellement surprise du dynamisme de la société civile, des LGBT, de leur connaissance, de leur expertise. Je dois avouer qu'on a tout ce qu'il faut pour faire des changements. Ça ne va pas être facile, ça va être long, mais on a l'obligation de changer les mentalités, d'éduquer, de démystifier, d'argumenter, de trouver des alliés, c'est important. Mais enfin, il faut s'assurer que les droits universels deviennent une réalité pour tous, même pour les LGBT. Merci beaucoup.